22h30, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et mon premier appel ce soir, c'est celui de Vincent. Bonsoir à vous, Vincent.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur cette libre antenne.
Merci.
Quelle est votre histoire à vous, alors, Vincent?
Mon histoire est très, très compliquée. Bon, ben, je me suis marié tard. J'ai eu deux enfants. J'ai eu Mathis à 40 ans et Sacha à 42 ans.
Oui.
Quelques années plus tard, j'ai divorcé. Une garde alternée a été instaurée, mais qui ne se passait pas très bien parce que mon ex-femme manipulait les enfants. Et à un moment donné, elle a voulu, elle a demandé l'hébergement exclusif, même pas principal, exclusif, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait plus que je les aie du tout parce qu'elle estimait que les enfants étaient en danger psychologique à la maison. Mais durant toute la procédure au tribunal, pendant les deux ans, elle n'a jamais su amener le moindre élément qui plaidait en sa faveur.
Que je comprenne bien votre histoire, Vincent, pour quelles raisons avez-vous divorcé?
Parce que ça n'allait plus et puis je recevais des coups de mon ex-femme.
Ah.
Donc, ben voilà, à un moment donné, ça, je veux dire, ça allait être elle ou moi. Donc, voilà, j'ai préféré demander le divorce parce que c'était plus possible.
D'accord.
Et puis, elle n'a jamais pu avoir l'hébergement exclusif, donc la garde alternée a continué. Et le jeudi matin, on est passé devant une psychothérapeute qui nous a dit que c'était la garde alternée, que ça restait comme ça. Et que, de toute façon, si malheureusement on ne parvenait pas à avoir un petit peu de dialogue entre nous, elle demanderait le placement des enfants à l'internat pendant la semaine. Comme ça, ils ne seraient plus sous l'influence ni de maman, ni de papa.
Mm-hmm.
Et ça, je pense que ça ne lui a pas plu du tout, parce qu'au lieu d'avoir les enfants en garde exclusive, elle ne les avait plus qu'un week-end sur deux. Et donc, la nuit suivante, elle a drogué les enfants, elle les a mis dans la voiture. Et puis, elle est allée dans un endroit très discret à l'écart. Elle a mis plein d'essence dans la voiture. Elle a brûlé les enfants vivants et elle se suicidait en même temps.
Oh mon Dieu.
Donc, et voilà, c'est très... Ils avaient 12 et 11 ans à l'époque. Donc, ça remonte au 14 août 2015. Donc c'est évidemment très difficile puisque ben on voilà après ça on a plus rien donc il faut survivre avec c'est même pas vivre avec cette histoire là c'est survivre à cette histoire là et puis ben voilà il faut être costaud.
Comment est-ce que vous avez appris ce drame?
Je suis policier. Et j'ai eu à 6h15 au matin les collègues qui ont sonné à la porte. Et directement, quand je les ai vus, parce que je sais comment fonctionne une annonce de mauvaise nouvelle, c'est comme ça qu'on appelle ça,
oui.
Ben, j'avais compris tout de suite.
Vous aviez un pressentiment?
Quand je les ai vus à la porte, oui, parce qu'ils étaient quatre. Chose qu'on ne fait jamais, en général on va deux, parfois trois, mais jamais à quatre. Et quand j'ai vu quel collègue était là, il y avait mon chef direct. Il y avait mon meilleur collègue et ami, et puis une assistante sociale et une collègue féminine. Donc voilà, j'avais compris que de toute façon, ben, qu'il y en avait, je pensais au début, un des deux. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y ait personne d'autre de ma famille qui était là. Donc j'ai bien pensé que c'était très grave,
oui.
et que les deux enfants étaient partis. Et puis ben, finalement, j'en ai eu la confirmation.
Comment est-ce que vous avez survécu à ça?
Oh, déjà par beaucoup de médicaments, beaucoup d'antidépresseurs, le soutien, parce qu'entre-temps, je me suis remarié et mon épouse actuelle a connu les enfants pendant 4 ans. Elle les a élevés et éduqués, mais vraiment comme si c'était leur maman. D'ailleurs, Mathis et Sacha l'appelaient régulièrement « maman ». Donc depuis 4 ans et demi, ben, mon épouse me soutient vraiment très très fort. Donc ça, c'est un soutien extraordinaire.
Ouais, c'est cet amour-là qui vous nourrit aujourd'hui.
Oui. Ouais. Ah oui, très fort, oui. On dit souvent qu'après des épreuves comme ça, il y a 80% des couples qui divorcent parce qu'ils ont toujours quelque chose à se reprocher. On dit toujours, tiens, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que j'ai fait qui a déplu à l'autre pour qu'elle tue les enfants. Donc, mais ici, je n'ai absolument rien à reprocher à mon épouse. C'était vraiment un charme. Elle gâtait les enfants plus que moi. Il adorait vraiment. Ça se passait super, super bien. Je pense que peut-être mon épouse était aussi, mon ex-épouse était jalouse de ça.
Probablement.
Parce qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas refait sa vie. Ouais. Et donc, voilà, c'est grâce à elle que je suis toujours là. Et puis, donc ça s'est passé au mois d'août et au mois d'avril, je ne les avais pas eus pendant à peu près 7 semaines à la maison. J'avais déposé des plaintes, mais j'avais reçu du parquet du procureur de roi une lettre comme quoi il n'entamait pas de poursuite parce qu'il n'avait pas assez de personnel. Donc ça, c'est oui. Ça a été très.
Ça serait
très
presque
difficile.
Drôle si c'était pas tragique.
Oui, mais oui, mais non, c'est pas. J'ai déjà entendu d'autres personnes qui disaient qu'ils avaient reçu les mêmes lettres, mais effectivement, quand on voit les conséquences après. Ben, voilà, on se dit, tiens, pourquoi on fait des économies dans tous les ministères, mais voilà, j'estime que c'est des économies qui coûtent cher.
Oui.
Et puis, en dehors de ça, ben, je vais chez un psychiatre.
Oui.
Pas un psychologue, un psychiatre, qui maintenant, c'est tous les mois. Ça m'aide beaucoup. Et alors, ce qui m'a aussi... Ah oui, donc je disais que je ne les avais plus vus pendant 7 semaines. Et ben pour finir, je me demandais s'il m'aimait encore. Et j'ai eu l'opportunité d'aller chez une thérapeute qui fait de l'hypnose.
Mmh.
Et j'ai eu quelques séances d'hypnose. Et lors d'une séance, alors on y croit, on n'y croit pas, c'est un peu comme Mesmer. Mais on n'y croit pas, mais j'ai vu les enfants... vraiment, je les ai vus vivants à côté de moi et ils m'ont dit « Papa, on t'aime ».
Oui.
Alors, effectivement, ça, on y croit, on n'y croit pas, mais ça m'a fait énormément de bien. Et quand on sait que les enfants vous disent « Papa, on t'aime », ben, ça fait beaucoup de bien au cœur.
J'imagine, oui.
Oui.
Est-ce que ça vous a changé, cette rencontre-là?
Oui, parce que oui, ça m'a changé parce qu'effectivement, je me demandais toujours si les enfants m'aimaient encore. Et là, de savoir ça, vous pouvez pas savoir comme je viens de le dire, le bonheur que ça fait d'entendre ces enfants dire papa, on t'aime. Même si c'est par hypnose, je n'arrive même pas à expliquer moi-même ce qu'est l'hypnose parce que. Voilà, on est transporté quelque part, c'est compliqué à expliquer.
Alors, l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est entre l'état de veille et l'état de sommeil. On ne dort pas,
mais
on n'est pas complètement présent non plus. Après, chaque séance est très très différente, et là, ce dont vous parlez, c'est une hypnose spirituelle, de connexion en fait.
D'accord.
Vous êtes reconnecté à eux.
Mais franchement, c'est extraordinaire comme sensation. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait. Je me suis senti beaucoup mieux après ça.
Mm-hmm.
Parce que là, jusqu'alors, j'avais des doutes. Et ben maintenant, j'ai plus du tout de doutes. Je sais qu'il m'aimait. Et voilà.
Et
on continue à vivre. Oui.
Est-ce que depuis, vous sentez leur présence?
Oui, je leur parle. Je leur parle régulièrement. Je leur parle régulièrement, comme s'ils étaient à côté de moi. J'ai deux petits bracelets. Vert pomme et orange à mon poignet droit. Pourquoi vert pomme et orange? L'orange, c'est à la couleur de Sacha. Et l'orange, c'est à la couleur de Mathis, pardon, mais le vert pomme, celui de Sacha. Et donc, je les ai tous les jours avec moi et voilà, je leur parle régulièrement. Et ça fait du bien. Surtout, Sacha, à chaque fois, c'est la même chose qui revient quand ils m'ont dit papa, on t'aime.
C'est l'amour qui revient tout le temps.
Oui. Oui.
C'est important, ça.
Oui.
Et aujourd'hui, quand vous pensez à votre ex-femme, quelles sont les émotions qui reviennent? Vous êtes toujours en colère?
Oui, je suis furieux. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé « Est-ce que tu ne lui pardonnerais pas? Est-ce que tu ne crois pas que tu irais mieux si tu lui pardonnais ?» Non, je ne saurais pas lui pardonner parce que il y avait qu'elle qui pouvait faire quelque chose de bien, il y avait qu'elle qui pouvait aimer les enfants convenablement, c'est la raison pour laquelle elle a fait ça. Mais c'est pas vrai, j'adorais les enfants aussi. Et non, lui pardonner, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, oui, je suis en colère. Oui, je suis vraiment en colère. Quand, oui.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes en contact encore avec des gens de sa famille à elle, avec les grands-parents, peut-être des enfants ou...
Alors non, plus du tout.
Non.
Plus du tout, parce qu'ils ont essayé dès le lendemain. Ils ont, donc la procédure a duré, s'est terminée ici au mois de mai. Donc il y a eu une enquête judiciaire pendant 4 ans. Et
pour chercher quoi?
Pour chercher quoi? Parce que la belle-famille, mon ex-belle-famille, a essayé de chercher par tous les moyens possibles et imaginables d'essayer de prouver que c'était moi qui avais tué mes enfants.
Ah oui, en plus, non seulement vous êtes dans le fond du trou, mais en plus on vous marche sur la tête.
Voilà, c'est ça, exactement.
Formidable.
Ah oui, donc là je ne les vois plus malheureusement.
Oui, non, je comprends. Oui.
Parce que je n'ai rien à leur reprocher, c'est ça le pire, c'est que... Voilà, c'est elle seule qui a fait ça, eux n'y sont pour rien, mais non, on ne se parle plus, c'est...
Ils y sont pour rien, mais ils ont cherché à vous enfoncer quand c'est arrivé.
Ah oui, ils ont cherché vraiment à m'enfoncer, ils voulaient prouver, à mon avis, ils ont du mal à faire leur deuil, à imaginer que leur sœur ait pu faire un acte comme celui-là, Et donc, ben, c'est plus facile de reporter la faute sur quelqu'un d'autre, sur un étranger, que sur sa propre sœur.
Chercher un coupable, oui.
Voilà, chercher un coupable. Le coupable le plus facile à trouver, ben, c'était moi.
Bon, j'imagine qu'ils n'ont jamais eu gain de cause sur quoi que ce soit.
Sur quoi que ce soit, ils n'ont jamais eu gain de cause, non. Ben, ils ne sauraient pas, de toute façon. Enfin bon, on ne sait jamais comment tourne en justice, mais il y a eu plein d'enquêtes, il y a eu perquisition à la maison, on a... tout retourner pour essayer de trouver des médicaments, de l'accélérant, des documents, parce qu'en plus, non seulement ça, mais elle avait laissé une lettre chez sa sœur, et ils ont essayé de faire dire que c'était moi qui l'avais menacée pour qu'elle écrive cette lettre. Enfin, c'était... pendant 4 ans, ça a été...
sordide.
Invivable.
Ouais, j'imagine.
C'était vraiment de la torture. En plus, comme vous disiez, j'étais au fond du trou, mais en plus, on a rajouté une couche.
J'entends, Vincent, un petit accent belge. Vous êtes en Belgique?
Oui, tout à fait.
J'imagine cette histoire a dû faire du bruit à l'époque. Ça a dû paraître aussi dans la presse.
Ça a paru dans la presse régionale. On en a même parlé à un ou deux journaux télévisés nationaux. Mm-hmm. Mais ça n'a pas fait... vraiment grand bruit, mais ici dans la région aussi ça fait grand bruit. Je sais que les rendez-vous chez les psychologues et surtout chez les avocats ont augmenté d'une façon assez extraordinaire, dans la mesure où je sais et je connais des parents qui ont eu la blague où les enfants demandaient à leur maman, dis maman, tu vas pas faire la même chose avec nous.
Ah, oh là là.
Ah oui, non, c'était... oui, il y a des gens qui voyaient les avocats en se disant, tiens, est-ce que... qui disaient la même chose. Et beaucoup d'enfants, puisque Mathis était... Ben, tous les deux, ils étaient en âge scolaire. Mais il y a des enfants qui sont toujours traumatisés actuellement.
Je pense justement aux enfants qui étaient dans leur classe à l'école.
Oui. Oui, mais il y en a qui sont toujours perturbés. J'en vois encore de temps en temps, mais c'est difficile pour moi de les voir parce que Mathis, il a arrêté de grandir à 12 ans, et puis je vois tous ses copains qui maintenant ont 17 ans. Parfois, ça me fait un peu drôle, ça me fait un peu mal au cœur, mais j'en connais qui sont perturbés. Je connais une fille qui a encore des objets de Sacha sur sa table. Sacha, c'est ma fille, sur sa table de nuit. Et il est hors de question qu'on touche aux objets qui sont sur sa table de nuit. Mmh. Ce sont des enfants, oui, qui sont perturbés à vie, qui ont été marqués à vie lors de l'enterrement. C'était pendant les vacances. mais on entendait dans le cœur que des pleurs. C'était des, oui, c'est tous des enfants. À cet âge-là, on ne comprend pas comment, d'ailleurs même normalement, comment est-ce qu'une maman peut tuer ses propres enfants?
Oui, comment on en arrive à cet extrême-là?
Oui, oui. Mais elle m'aurait dit la veille que si la veille elle m'avait dit qu'elle l'aurait fait, je ne l'aurais pas cru. Parce qu'elle n'était pas, pour moi, dans un état mental à faire un acte comme celui-là.
Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? À quel moment, c'est dans sa tête, ça a switché vers la folie comme ça? Est-ce qu'il y avait un risque et qu'elle ait pris un médicament, de l'alcool ou quelque chose?
Alors, d'après l'autopsie, elle n'aurait pris qu'un dafalgan. Par contre, les enfants, ils avaient pris environ 5 zolpidem. Les zolpidem, ce sont des somnifères adultes.
Oui.
Donc, eux n'ont pas souffert parce qu'ils avaient pris ça. Elle n'avait pris que du dafalgan, mais je pense qu'elle était déterminée dans son acte, que c'était pas possible, puisqu'elle allait perdre les enfants, elle n'allait plus les avoir qu'un week-end sur deux, au lieu de les avoir en garde exclusive. Ben, je pense que ça l'a perturbée complètement. La seule solution pour elle, puisqu'il y avait qu'elle qui faisait bien, c'était de partir avec
la mort,
eux.
Ouais. Elle n'avait aucune pathologie psychiatrique, votre ex-femme?
Non, par contre, moi j'ai toujours dit, elle avait eu, un peu après la naissance de Mathis, un accident, elle avait fait une collision frontale. L'accident avait eu lieu à 19h, mais elle a eu un trou de mémoire à partir de 17h, donc 2 heures avant, jusqu'au lendemain midi. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai toujours dit que notre couple avait changé. Elle n'était plus la même. Et moi, j'ai toujours dit qu'elle avait changé à cause de cet accident-là, qu'elle avait une commotion cérébrale forte. Mais à mon avis, elle ne s'est pas bien soignée, elle ne s'est pas assez reposée. Et pour moi, c'est ça qui a toujours laissé des traces.
Vous n'avez pas pu en parler avec un médecin de ça?
Mais les médecins m'avaient dit qu'il faudrait du temps, que ça se remettrait, qu'il n'y avait pas de souci, que ça se remettrait, mais voilà. Maintenant, évidemment, quand on est amoureux, quand on vit avec quelqu'un, on ne voit pas les changements tout de suite. Il faut prendre du recul. Et quand je parle avec des gens qui la connaissent, les gens me disaient qu'elle avait changé complètement. Mais que ce n'était pas dû à l'accident, qu'elle avait changé complètement depuis qu'elle était devenue maman.
Ah, c'est une autre interprétation des choses, alors.
Oui, oui. Et que donc, il y avait qu'elle qui faisait bien pour s'occuper des enfants. Il y avait que elle qui faisait bien, même si j'allais acheter pour que ça se calme, si j'allais acheter les chaussures dans les mêmes magasins qu'elle, mais de toute façon, je n'achetais pas de bonnes chaussures. Si j'allais chez le même coiffeur, de toute façon, les enfants n'étaient quand même pas bien coiffés. Enfin, c'était tout le temps, il y avait qu'elle qui faisait bien.
Mais vous aviez tort, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, j'avais tort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ouais. Combien de temps il s'est passé entre le départ des enfants et ces séances d'hypnose qui vous ont vraiment apaisé, comme on l'entend là?
Alors, les séances d'hypnose, c'était pendant l'hiver dernier, donc je dirais 3 ans.
Oui, donc il y a eu 3 ans d'un chemin qui a dû être qu'on n'imagine même pas.
Oui, non, parce que c'est inimaginable. Déjà la perte des enfants, le manque, parce que on a tout perdu, on n'a plus rien. Et puis en même temps, on vous accuse de les avoir tués.
Oui. Double peine, quoi.
Donc ça, ah oui, mais ça c'est très très difficile à supporter, ça. Et je pense que si j'avais pas eu mon épouse, je pense que j'aurais probablement commis un acte irréparable, comme on appelle ça. Hein.
Vous n'auriez pas tenu le coup?
Non, je crois que je n'aurais pas tenu le coup.
Alors j'ai bien compris qu'aujourd'hui, votre rapport au deuil et aux enfants est apaisé, ça s'entend.
Oui.
Mais le reste, vous parliez encore de colère, justement, tout ce qu'on a voulu vous faire subir, vous faire porter, vous en êtes où émotionnellement par rapport à tout ça?
Je vais beaucoup mieux. Oui. Je vais beaucoup mieux. Les séances chez le psychiatre me font énormément de bien. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, la séance d'hypnose, ça fait énormément de bien. Et depuis, ça va mieux. Ce qui est souvent difficile, c'est le manque. Parce que j'habitais dans une maison avec 20 arts de terrain. Tout l'étage était réservé aux enfants. Ils avaient deux chambres, chacun leur chambre, une chambre de jeu, une salle de bain complète pour eux seuls. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans cette grande maison-là avec mon épouse.
Qui n'a pas d'enfant de son côté ?
Si, je vais m'expliquer comme ça, elle a commencé beaucoup plus tôt. Donc, elle a un fils de 34 et 35 et une fille de 32. Que ma petite aurait maintenant 17 ans et Sacha 16.
Il y a presque une génération d'écart.
Oui, il y a vraiment une génération d'écart. Et pourtant, mon épouse et moi, on a le même âge. Donc, elle a commencé à un âge normal, que moi, j'ai commencé tard. Ben oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu ma petite à 40 ans et Sacha à 42.
Et est-ce qu'il y a des petits-enfants de ce côté-là ?
Non.
Pas encore ?
Non, pas encore. Donc ça, c'est vrai que ça nous manque. On a parfois envie de s'occuper, d'avoir un enfant, quel que soit l'âge, parfois, et de pouvoir s'occuper d'un petit ou d'un jeune.
Et ça pourrait arriver, ça, non ?
On a pensé à beaucoup de choses, mais famille d'accueil, mais c'est tellement, le manque est tellement difficile et je suis en plus tellement sensible que je ne pense pas que ce soit possible.
Non, je parlais des enfants de votre compagne qui pourraient vous faire des bébés.
Oui, mais on attend avec impatience, mais ils n'ont pas l'air très pressés.
C'est quelque chose qui ramènerait de la vie et plein d'amour aussi dans cette famille.
Et plein d'amour, un but de tenir, parce que ben voilà, moi j'ai plus rien après, donc parfois on se dit, tiens, pourquoi se battre, pour qui après ?
Mais c'est pour ça que je vous parlais d'une suite de ce côté-là.
Oui, mais il faudrait qu'ils s'y mettent. ça ne dépend pas de moi. Et puis en plus...
J'entends votre compagne derrière, oui.
Oui. Donc elle disait, on est trop vieux pour adopter. Elle a 58 ans, moi j'en ai 57. Mmh. Donc voilà, faire une famille d'accueil, c'est un peu la même chose. J'ai un métier qui est très prenant. Donc c'était trop compliqué. On y a beaucoup pensé depuis 4 ans. Mais moi, je ne me sens pas prêt à accueillir un enfant. En plus, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de la maison. Mais j'ai vendu la maison. Et on se retrouve ici dans un appartement de 110 mètres carrés, deux chambres. Et donc, voilà, c'est plus facile aussi parce que j'ai plus tous les souvenirs de la maison.
Oui, c'est une page qui s'est tournée, bien sûr. Ouais.
C'est une nouvelle page qui s'est tournée. Et depuis, je vais mieux aussi parce que j'ai plus tous ces souvenirs-là des enfants. Que quand je regardais la pelouse derrière, je voyais ma petite en vélo ou... Je les regardais faire les fous dans les escaliers. Il y avait toujours un endroit où je me rappelais d'eux. Donc, c'était plus vivable non plus. Donc, raison pour laquelle j'ai vendu la maison. Et maintenant, on se retrouve. On est en appartement. Et on s'y plaît très bien.
Mais je suis sûre, dans cet appartement, il y aura de la place pour des petits bouts s'ils arrivent.
Ah oui, il y aura de la place. On en fera, ça c'est sûr. On y a déjà pensé plusieurs fois. Et on serait super heureux de pouvoir les accueillir.
C'est tout le bonheur que je vous souhaite maintenant, Vincent. En tout cas, merci pour ce témoignage qui est extrêmement touchant. Et de vous entendre comme ça, ça donne probablement de la force à beaucoup de gens ce soir qui vous écoutent.
Oui. Alors, une chose, tiens, si j'ai encore le temps de parole. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Parents Désenfantés. C'est une association qui regroupe tous les parents, quel que soit l'âge des parents, qui ont perdu un ou des enfants, mais c'est souvent un.
Alors Vincent, pardonnez-moi, oui. Ce que je vous propose, parce que là, il faut vraiment que je m'arrête pour le temps des infos, c'est que vous ne quittez pas.
D'accord.
Je vous récupère de l'autre côté des infos et on prend le temps un petit peu de parler de cette association. D'accord ?
D'accord.
Je préfère ça plutôt qu'on fasse ça en 10 secondes maintenant. On prend le temps dans 2-3 minutes.
D'accord.
Merci à vous. À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Vous êtes bien sur la Libre Antenne d'Europe 1, nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez continuer à appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Prendre la parole bien sûr pour parler de vous et de tout ce qui vous préoccupe ou même pour réagir à un témoignage que vous avez entendu et qui vous a touché. Un seul numéro de téléphone à composer, le 3921, vous tomberez sur Hassan ou sur Oscar qui vous accueilleront au standard Europe 1 et qui vous guideront en toute bienveillance jusqu'à moi. Je vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez aussi intervenir par SMS en tapant le 739-21 et en commençant bien par le mot « nuit ». Et puis bien sûr, les mails libreantenne@europe1.fr. Je récapitule, 39-21 par téléphone, 739-21 en commençant par le mot « nuit » pour les SMS et libreantenne@europe1.fr pour les mails.
22h30, 1h, la Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Vincent, vous êtes toujours là ?
Oui, oui, je suis toujours
C'est
là.
C'est gentil d'avoir patienté. Je préfère qu'on puisse parler tranquillement de cette association. Alors, dites-m'en plus.
Donc, c'est une association qui s'appelle les Parents Désenfantés.
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 Désenfantés,
donc,
d'accord.
Oui, qui n'ont plus d'enfants, enfin, ou qui ont perdu un enfant.
Ouais.
Donc, c'est une association qui regroupe des parents, quel que soit l'âge des parents, qui ont perdu un ou plusieurs enfants, mais c'est souvent un. Quel que soit l'âge des enfants et quelles que soient les circonstances du décès de l'enfant.
Oui.
Et donc, on se retrouve là une fois tous les 2 mois à peu près et on échange.
C'est comme, un groupe de parole ?
Comme un groupe de parole. On échange, on raconte chacun nos histoires. Les groupes changent à chaque réunion. Donc, depuis le temps que j'y vais, je n'ai pas souvent vu dans mon groupe les mêmes personnes. Et donc, là, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à vivre un drame comme celui-là. Et ça, ça fait du bien aussi. C'est par exemple là que il y a quelqu'un un jour qui nous a dit dans un groupe de parole, il m'a dit, moi, le jour du décès de mon enfant, je ne travaillerai plus jamais. C'est un jour de congé que je consacre à mon enfant et je pars, je vais à la mer, je vais quelque part, mais je ne travaillerai plus jamais. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Et depuis 4 ans, ben, le 14 août, je ne travaille plus et je ne travaillerai plus jamais un 14 août. C'est un jour de plus que je consacre aux enfants.
Alors, puisque vous mentionnez le travail, Vincent, je voulais vous demander justement comment ça s'est passé à ce moment-là. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Est-ce que vous avez été soutenu de ce côté-là?
Je n'ai pas compris la question.
Au moment du travail, dans votre boulot, dans votre travail, quand c'est arrivé ce drame, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu reprendre le travail? Est-ce que vous avez été soutenu, aidé, compris?
Je suis resté 2 mois et demi à la maison.
Oui.
Et puis après, oui, j'ai été soutenu. C'est extraordinaire d'ailleurs comment les collègues m'ont soutenu et me soutiennent d'ailleurs toujours aujourd'hui parce que il m'arrive encore régulièrement de pleurer au bureau. Il y a des jours, je sais bien quand je me lève, il y a des jours, je sais que ça n'ira pas, je sais que ça va aller. Et les jours où ça ne va pas, voilà, ça m'arrive de pleurer au bureau. Et les collègues qui me voient, ils me disent « bon, ça ne va pas encore aujourd'hui, grand ». Et puis, ils font une tape sur l'épaule, ils me disent « on va faire un tour » ou « on boit une tasse de café ». Ils sont vraiment très, 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 très gentils avec moi. J'ai eu beaucoup de chance aussi de les avoir et de toujours les avoir parce qu'ils sont toujours très attentifs à moi.
Ça, c'est effectivement une grande chance.
Oui, 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 oui.
Dans votre malheur, que ce soit au travail ou à la maison, vous avez été extrêmement entouré.
Oui, extrêmement entouré, oui, extrêmement. Et je le suis toujours d'ailleurs. Moins parce que le temps passe et donc les gens, je ne vais pas dire s'éloignent, mais reprennent un peu leur vie normale et passent moins de temps près de moi. Mais quand on se rencontre ou parfois ils téléphonent pour prendre des nouvelles, ça fait énormément de bien.
Oui. Alors pour en revenir à votre groupe de parole, j'imagine que pour les petits Français, ce n'est pas accessible en fait.
Oh, pourquoi pas, il suffirait qu'ils fassent la demande.
Donc ça serait possible. S'il y a des parents qui nous écoutent ce soir et qui auraient... Bon, de toute façon, c'est pas très loin la Belgique, c'est quoi, c'est 3 heures en voiture, 2 heures en train?
Oui, peut-être, oui.
Est-ce que vous avez un site ou un numéro de téléphone, peut-être?
Je n'ai pas le numéro comme ça, mais il faut. Je pense que si vous tapez sur Internet les parents désenfantés, je pense que vous trouverez.
Parents désenfantés, et dans quelle ville de Belgique êtes-vous?
Alors, le siège est à Serroux-Mousty.
Oula!
C'est près de Louvain-la-Neuve, mais bon, voilà. C'est...
Près de Louvain.
Près de Louvain. D'accord. Louvain-la-Neuve. Hein.
Louvain-la-Meuse.
Pas Louvain-Leuven, Louvain-la-Neuve.
D'accord, mais je pense que les gens qui voudront trouver en tapant « enfant désenfanté » Belgique...
Parents désenfantés.
Parents désenfantés trouveront. Je suis en train de lire, on a par mail une réaction, beaucoup de SMS de soutien, de gens très touchés par votre histoire, Vincent bien sûr. Mmh. Et Pierre-Yves qui nous dit « bravo à lui, quel exemple de courage, de ténacité et d'espoir, merci de lui transmettre ». Voilà qui est fait.
Bon, ben super, ça c'est vraiment gentil, ça me fait vraiment plaisir, ça va droit au cœur. Merci à lui.
Il y a énormément de messages de soutien pour vous, Vincent, bien évidemment. Et moi, je suis non seulement très touchée par votre histoire, mais épatée par le chemin de vie que vous avez fait, par tout ce que vous avez appris et grandi depuis ce drame.
Oui, mais c'était ça où sombrer définitivement. Donc, je pense que les enfants n'auraient pas voulu me voir... c'est ça qui me tient aussi.
Oui.
Les enfants n'auraient pas voulu me voir pleurer, abattu... faire un acte irréparable, donc pour eux, je tiens aussi.
Oui.
Surtout pour mon épouse, mais pour eux aussi, je dis que je n'ai pas le droit de me laisser aller. Ils n'auraient jamais voulu ça, donc je n'ai pas le droit de me laisser aller.
Et puis c'est comme si aujourd'hui vous viviez pour trois.
Oui, oui, tout à fait.
Merci Vincent pour ce beau témoignage, bravo à vous pour ce chemin parcouru. Je me permets d'embrasser votre compagne que je sais pas loin de vous.
Oui, à côté.
Bravo à elle aussi, parce que je pense qu'il vous a fallu beaucoup de courage à tous les deux pour surmonter ça et continuer chaque jour à avancer.
Et voilà, c'est ça, il nous en faut toujours.
Beaucoup de courage et beaucoup d'amour, et je sens et j'entends qu'il y en a, et ça c'est l'essentiel.
Oui, merci beaucoup.
Je me permets de vous embrasser tous les deux très très fort.
C'est gentil, merci beaucoup.
Au revoir Vincent.
Au revoir, bonne fin de soirée.